Les spécialistes, qui sont-ils ce mercredi matin? Il y a Emmanuel Faux qui aura la parole dans quelques minutes à propos du blocage par Budapest et Varsovie du plan de relance européen. On va en parler avec lui, mais d'abord avec vous, Dimitri Pavlenko. Parlons de deux sujets qui fâchent. J'ai cité Amazon et le Black Friday. Alors Amazon, je sais pas, peut-être qu'en France, on est tout seul au monde à se battre contre la plateforme américaine de distribution de tout, puisqu'ils vendent tout Amazon. Le fait est qu'il y a des appels au boycott en ces temps de fermeture du petit commerce. Et puis, il y a des appels aussi à ne plus construire de nouvelles plateformes Amazon. À Strasbourg, les gens ont eu gain de cause et Amazon a renoncé. Et à Nantes, actuellement, il y a une fronde contre l'éventualité d'un nouvel entrepôt Amazon. Pourquoi, selon vous, sommes-nous comme ça, nous Français, et est-ce justifié? Bon, je crois que non, d'après vous. Mais expliquez-nous pourquoi.
Non, enfin, sur la fronde d'abord, c'est vrai, moi ce qui me frappe, qu'on s'indigne qu'Amazon ne paye pas suffisamment d'impôts. Ils ont beaucoup progressé dans le secteur hein, quand même. Hein. C'est une chose. Ensuite, qu'on attaque Amazon parce que c'est un modèle commercial unique, exceptionnel, ce sont les meilleurs. Je veux dire, le système de paiement d'Amazon, la productivité du groupe, le délai de livraison, ils vous livrent le dimanche après-midi, ils sont les seuls à le faire. C'est ça les clés du succès d'Amazon. En revanche, il y a des élus locaux qui s'indignent parce qu'on va construire un centre de dépôt sur leur commune qui au passage va peut-être permettre de créer 100, 200, 300 emplois, que des élus s'opposent à cela, là je vous avoue que ça dépasse l'entendement de mon point de vue, je comprends pas la logique économique de ces élus locaux.
Les élus disent il faut protéger notre petit commerce local et peut-être national aussi. Donc on veut pas d'Amazon. Voilà.
Mais c'est sûr que
comme ça moi que je raisonne.
Non mais c'est sûr que l'avenir du commerce c'est la petite mercerie dans un village de 3000 habitants mon cher Bernard. Enfin je raille.
Je suis pas d'accord sur ce truc-là.
Je raille, c'est vrai mais alors Amazon, peut-être écoutons ce qu'ils ont eux à dire.
Allons-y.
Parce qu'on dit, on dit maintenant Amazon détruit plus d'emplois qu'il n'en crée. Ils disent avoir créé 10 ou entre 10 et 15 000 emplois et ils en auraient détruit le double. C'est ce que disait Mounir Majoubi, l'ancien secrétaire d'État au numérique l'an dernier.
Oui.
Oui, mais c'est pas que ça. C'est-à-dire qu'Amazon n'est pas qu'un employeur. Amazon c'est aussi surtout une vitrine. Et en l'occurrence, Amazon vient de communiquer des chiffres. Vous avez 11 000 PME françaises qui vendent sur Amazon pour un chiffre d'affaires moyen en ligne sur leur plateforme de 35 000 euros. Mais vous avez des boîtes qui font jusqu'à 1 million d'euros de chiffre d'affaires grâce à Amazon. Il faut voir aussi qu'Amazon, c'est de la visibilité. C'est 31 millions de visiteurs uniques par mois, Amazon. Quand on est une PME française, c'est inespéré. Amazon, c'est aussi une porte ouverte sur le reste de l'Europe. Et en la matière, d'ailleurs, les PME françaises, c'est 11 000 PME qui vendent sur Amazon. Elles sont un petit peu en retard par rapport au reste de l'Europe. Où vous avez aujourd'hui près de 150 000 entreprises européennes qui vendent aujourd'hui sur Amazon. Il faut dire aussi qu'Amazon, ça a sauvé des entreprises. Je vous donne un exemple. Une boîte qui s'appelle Photoflash, qui est basée à Blois. Deux boutiques, ils vendent des appareils photo en ligne. Ils font 30% de leur chiffre d'affaires sur Amazon aujourd'hui. S'ils n'avaient pas Amazon, c'est une boutique sur deux qui fermait. Alors vous allez me dire, Bernard...
Il y a d'autres vendeurs en ligne français.
Mais oui, bien sûr. Et d'ailleurs, Amazon, si vous allez sur leur site aujourd'hui, ils mettent en avant ces vendeurs français parce qu'ils sentent qu'il y a un Amazon bashing qui est terrible. Et je l'ai déjà dit à ce micro, en France, il y a toujours une grande entreprise dans le collimateur. On a eu BlackRock, il y a eu Monsanto, il y a eu les banques. Aujourd'hui, c'est Amazon. Alors, il y a des vraies questions, c'est vrai. La distorsion de concurrence sur les produits non essentiels. Le commerce en ligne, pas qu'Amazon, a le droit de le vendre quand la grande distribution et le petit commerce se le voient interdit. Il y a d'autres questions, effectivement, sur la pollution, l'artificialisation des sols, le précariat. Mais enfin, je trouve quand même que l'Amazon bashing en ce moment, c'est quand même excessif.
Dimitri, quand même, il y a aussi l'autre thème qui est le Black Friday.
Oui.
Donc ça vient des États-Unis. Il y a 10 ans, ça n'existait pas en France. Maintenant, tous les 27 novembre, il faut se taper le Black Friday. Là, cette année, les petits commerçants disent « Laissez-nous ouvrir le 27 novembre
oui. ».
Il faut que le gouvernement lâche. Parce que M. Véran et M. Castex, ils ont...
Économiquement, oui, sur le plan sanitaire, je ne suis pas médecin, mais économiquement, c'est clair que pour ces commerçants, s'ils ne sont pas dans le train du Black Friday, ils sont déjà lourdement handicapés, et là, ils vont vraiment y laisser des plumes.
Bien, bah écoutez, nous allons voir. De toute façon, ça va être arbitré dans les tout prochains jours, puisque nouveau conseil de défense, etc., etc. Donc, on sera fixé sur le Black Friday. Sera-t-on fixé sur l'avenir du budget de relance européen à 750 milliards prochainement? Je vais poser la question à Emmanuel Faux. Emmanuel, bonjour.
Oui, bonjour Bernard.
Au moment où l'Europe donc fait face à une phase aiguë de pandémie, deux pays rouvrent une crise ouverte, donc avec Bruxelles. Il s'agit de la Hongrie et de la Pologne. C'est souvent la Hongrie et la Pologne qui marchent ensemble sur pas mal de dossiers. Ils ont opposé ensemble leur veto à la mise en place du plan de relance de 750 milliards qui a été adopté en juillet dernier. Donc la question, docteur Faux, est la suivante. Est-ce que c'est grave ?
Bah, c'est en tout cas très spectaculaire parce que la cagnotte anti-Covid des 27 se retrouve prise en otage en quelque sorte par deux pays membres en colère et ça peut évidemment avoir des conséquences très lourdes alors que des pays comme l'Italie, l'Espagne ou même la France comptent sur cet argent européen pour panser les plaies de l'épidémie et pour amortir le choc économique qui s'annonce. Alors la crise s'est jouée en trois actes, hein, je vous le rappelle. Premier acte en juillet dernier, sommet européen, 4 jours et 4 nuits de négociations marathon, et les 27 membres de l'Union européenne adoptent au finish le plan de relance exceptionnel de 750 milliards d'euros proposé par la Commission et par sa présidente Ursula von der Leyen.
Oui.
Début novembre, deuxième acte à Bruxelles, plusieurs pays membres s'entendent sur un mécanisme sans précédent qui conditionne le versement des aides européennes à chaque pays au respect de l'état de droit. Alors, dans le collimateur de ce mécanisme, il y a deux pays particulièrement visés qui se reconnaissent d'ailleurs. D'une part, la Hongrie de Viktor Orban, montrée du doigt, vous le savez, depuis des mois et des mois pour ses restrictions à la liberté de la presse, pour sa mise sous tutelle de la justice. Et puis d'autre part, il y a les conservateurs au pouvoir en Pologne, où la remise en cause quasi absolue du droit à l'avortement a jeté des foules de manifestants dans les rues ces dernières semaines. Avant-hier, et c'est donc le troisième acte, en découvrant que les fonds européens pourraient leur passer sous le nez, les gouvernements hongrois et polonais dégainent leur veto pour bloquer le paquet budgétaire qui adosse le plan de relance anti-Covid au budget de l'Europe prévu pour les 7 ans qui viennent jusqu'en 2027.
Ouais.
Budapest et Varsovie s'insurgent contre ce lien qui est fait entre le budget européen et l'état de droit. Ils parlent même d'une limitation radicale de leur souveraineté et ils mettent donc le pied sur la cagnotte tant attendue par les Européens.
Ce constat étant fait, Emmanuel, est-ce qu'il y a moyen de sortir de ce bras de fer et du coup aussi de sauver le plan de relance?
Ben vous savez Bernard, le propre des crises en Europe, on le sait, c'est de finir par se résoudre.
Oui.
Parfois dans la douleur, souvent dans la nuit, mais on en sort. En tout cas, c'est en l'occurrence ce qu'on veut croire à Paris, à Berlin, dans les grandes chancelleries où les ministres et les secrétaires d'État concernés appellent chacun à faire preuve de responsabilité, à se rasseoir autour de la table pour négocier, hongrois et polonais compris. Il se trouve qu'un sommet européen doit avoir lieu demain. Ben ça tombe bien, l'ordre du jour, c'est bien sur la pandémie. Donc le budget et le plan de relance ne seront pas très loin. Alors comment convaincre la Hongrie et la Pologne de lever leur veto ? Que peut-on leur offrir sans céder sur l'état de droit et les droits de l'homme ? Les spin doctors de la diplomatie bruxelloise sont déjà à la manœuvre. Il y a quand même un principe de réalité qui devrait s'imposer à tous, c'est que les Polonais et les Hongrois ne vivent pas sur une île. Eux aussi sont touchés par le coronavirus et eux aussi seront heureux de bénéficier des fonds européens qui leur sont dus et des fonds de relance qui peuvent les sauver. On peut donc parier qu'une solution sera trouvée.
Merci beaucoup. Emmanuel Faux, Dimitri Pavlenko, les spécialistes de ce mercredi matin sur Radio Classique. Il est 7h47 exactement. À suivre le journal imprévisible de Renaud Blanc. Renaud, fasciné par Florence Artaud, immense navigatrice qui, voici 30 ans presque jour pour jour, remportait la route du Rhum.